Oblique. 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 L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous, obliquiens et obliquiennes, pour la dernière émission de la saison. Nous aurions pu là vous parler de l'excellent Backphone, de l'alléchant Decision to Live de Park Chan-wook, qui sort aujourd'hui, ou encore de Incroyable mais vrai. Mais non, on a décidé de sortir de l'actualité. Enfin, pas tout à fait. Bonjour à tous les trois.
Salut.
Bonjour.
Voilà. Donc Romain, donc toi tu remplaces Yann pour l'audio oblique et tu vas nous parler de végétaux,
De racines, de feuilles, tout d'accord. Ça va vous plaire.
Et toi Victor,
voilà. Écoute, je fais un petit peu la suite de la chronique de Variety, donc le film dont on a parlé il y a quelques semaines, qui raconte l'histoire d'une ouvreuse de cinéma porno. Ça m'a donné envie de rencontrer en fait quelqu'un qui avait un petit peu pratiqué ce type d'activité. En l'occurrence donc William, qui a été projectionniste au Rex, le cinéma pour adultes de Montpellier.
Ben quant à moi, je vais revenir sur une reprise qui sort donc le 6 juillet à Utopia, Les Femmes des Autres de Damiano Damiani. Et puis si on a le temps, je dirai un petit mot de Caltiki, le monstre immortel de Riccardo Freda et Mario Bava. Mais tout de suite, on retrouve Justine pour l'agenda des événements de la semaine et au-delà.
Et un petit
même.
Peu plus.
Voilà.
Bonjour tout le monde, alors pour cette dernière émission de la saison, je vous ai préparé un programme spécial soirée ciné plein air. Alors on commence en beauté avec le festival Demain qui aura lieu du 1er au 12 juillet à partir de 18h dans l'enceinte de l'université de Nîmes, le site de Vauban. Pour cette deuxième édition, l'association Une salle sous les étoiles nous a concocté un programme très riche, car en plus de projeter au total 10 films, le festival nous propose également des concerts, des expositions, des ateliers très variés comme par exemple des ateliers de doublage ou d'animation, mais aussi un bar à jeux, des food trucks, bref, de quoi passer d'excellentes soirées. Concernant les films projetés, vous pourrez par exemple découvrir ou redécouvrir L'Armée des Douze Singes, La Cité des Enfants Perdus, Un Jour Sans Fin, Soleil Vert et bien d'autres encore. Et en bonus, parce que le festival c'est aussi et surtout une histoire de rencontre, l'équipe vous propose des moments d'échange avec des personnalités du secteur comme par exemple Jean-Pierre Jeunet, parrain du festival, mais également Patagraphe, le réalisateur du clip La Quête de Aurel San, mais également l'école Courtrajmé. Pour le programme complet du festival, je vous invite à faire un tour sur le site Une salle sous les étoiles, toutattaché.fr. Du 6 au 10 juillet, à partir de 20h, le cinéma Diagonal s'installe une fois de plus à la Halle Tropisme pour sa 7e édition du Diago en plein air. Et pour l'occasion, le Diagonal nous a programmé 5 avant-premières issues des sélections du Festival de Cannes. Au programme, le 6 juillet, vous pourrez découvrir le film Rodéo de Lola Kivoron, qui sera d'ailleurs présente lors de la projection. Le 7 juillet, ce sera Boy from Heaven de Tariq Saleh. Le 8 juillet, Sans filtre de Ruben Östlund. Le 9 juillet, Les 8 montagnes de Charlotte Vandermersch et Félix von Groningen. Et enfin, le 10 juillet, L'innocent de Louis Garrel. Pour plus d'infos, vous pourrez consulter le site du Cinéma Diagonal, rubrique événements. Le vendredi 8 juillet, à partir de 20h, la Maison pour tous Frédéric Chopin organise une soirée projection plein air du film José, le tigre et les poissons, réalisé par Kotaro Tamura. Ce film d'animation nous raconte l'histoire de José, paraplégique depuis son enfance, qui, pour s'échapper du quotidien, vit dans son propre monde grâce à une imagination débordante. Un jour, elle fait la connaissance de Tsuneo, son nouvel aide-soignant, un étudiant un peu aventurier qui va, peu à peu, lui faire découvrir la vie réelle. Si vous avez un petit creux, des plans de chat seront dispo sur place, donc n'hésitez pas à amener vos grillades. Un événement donc gratuit, destiné à un public de plus de 10 ans. Et enfin, du 16 juillet au 11 août, le cinéma Utopia est invité dans le jardin du château de Grabel. Au programme de ces soirées, ouverture des portes à partir de 19h30, vous pourrez assister à un concert tout en profitant du bar et de la restauration sur place avec des produits frais et locaux vers la tombée de la nuit, début des projections. Au total, 5 soirées avec donc le 16 juillet, la projection de Summer of Soul de Amir Thompson, le 21 juillet encore de Cédric Lapiche, le 28 juillet Elvis de Baz Luhrmann, Le 4 août, Ma famille afghane de Mikaela Pavlatova. Et enfin, le 11 août, The Duke de Roger Mitchell. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site du cinéma Utopia. Voilà, l'agenda culturel, c'est fini pour cette saison. Je vous souhaite un très bon été et allez au ciné.
Grand merci Justine. Et puis tout de suite, direction Les Femmes des Autres de Damiano Damiani. La ressortie en copie neuve restaurée 4K des Femmes des Autres est l'occasion surtout de réhabiliter d'urgence un grand cinéaste Damiano Damiani, connu essentiellement pour deux films qui comptent peut-être parmi ses plus faibles, enfin le western parodique Un génie, une cloche et deux associés et Amityville 2, qui est pourtant le meilleur de la saga des Amityville. Ces deux œuvres de commande, donc personnelles, ont longtemps fait de l'ombre à une filmographie d'une richesse inépuisable que l'on peut scinder en deux. D'un côté, le pur cinéma de genre avec des revendications politiques très marquées, un engagement assez radical à l'œuvre dans le western zapatiste notamment, El Chuncho, et surtout toute sa série de polars remarquables. Parmi les meilleurs titres, on peut retenir La mafia fait la loi, Seul contre la mafia, Nous sommes tous en liberté provisoire et bien sûr Confession d'un commissaire de police au procureur de la République qui est ressorti d'ailleurs récemment, il y a quelques semaines. Militant au PC, Damiano Damiani, sans faire de la propagande, a su ausculter les tares de son pays avec une lucidité étonnante. Il a surtout compris l'intérêt d'utiliser le pur divertissement pour faire passer non pas un message, mais ses idées. Et puis de l'autre côté, il a réalisé des films d'auteur plus intimistes, confidentiels, d'une subtilité hors mode et hors temps. On lui doit une adaptation de L'ennui de Alberto Moravia, un giallo expérimental, Una ragazza più tosto complicata et Les Femmes des Autres, titre qui nous intéresse, sorti en 1962. Alors, ces chefs-d'œuvre couvrent les années 60 et 70, âge d'or pour le cinéma italien. Il va tourner jusqu'en 2002 avant de s'éteindre à 90 ans, en 2013. Une longue carrière pour un auteur passionnant que je vous invite à découvrir d'urgence. Je crois qu'il y a eu même une rétrospective à la Cinémathèque de Paris. Les Femmes des Autres s'inscrit dans la tradition, très en vogue en Italie, des films de copains qui s'appuient sur le mode de la nostalgie. Des amis se retrouvent après de nombreuses années de séparation. Ils approchent de la quarantaine et souhaitent, au cours d'une soirée, retrouver l'insouciance de leur jeunesse. Mais au fil des heures, les souvenirs plus ou moins heureux s'égrènent, apportant peu à peu une tension dramatique à ces retrouvailles.
Dai, dai, que si vide.
Ci sono sere in cui si ha voglia di conoscere qualcuno.
Romanzo rosa, eh?
Les films de groupe ont engendré quelques classiques comme Il Vitelloni de Fellini ou Nous sommes tant aimés de Scola ou encore Mes chers amis de Monicelli. Mais ici, avec une particularité, la noirceur et l'engagement. Pourtant, cette chronique douce amère entre drame et comédie commence assez mal, voire de façon un peu gênante où Damiano Damiani confond alors au début pédophilie et homosexualité lors d'une séquence plus maladroite finalement que problématique. Dans un premier temps, il paraît aussi complaisant envers ses personnages masculins, Fallo, flirtant avec une misogynie un peu désuète. Alors avec une grille de lecture contemporaine, Les Femmes des Autres pourraient ressembler à une comédie dramatique un peu vieillotte. Mais plus le film progresse, plus il dessine ses contours, sa raison d'être, sa modernité finit par éclater. Le scénario, brillant et malin, faisait mine d'épouser une beaufrie datée, pas pire que celle des œuvres aux sujets similaires contemporains comme Le cœur des hommes ou Les petits mouchoirs, pour dériver vers un pamphlet social, amer et totalement désillusionné, avec un personnage central de plus en plus attachant, Cesarino, le seul qui est resté finalement fidèle à lui-même, sincère et attentionné. Le seul aussi qui n'a pas réussi au sens matériel, travaillant dans un cinéma de quartier en tant que projectionniste et peinant à joindre les deux bouts. Quant aux autres, ils se révèlent au grand jour tour à tour égoïstes, machos, arrogants, creux, méprisants envers les femmes qui, elles, au contraire, gagnent en épaisseur plus le film avance. Damiano Damiani signe finalement l'antifilm de Pote, une œuvre amère et lucide qui, à travers sa galerie de personnages pathétiques, dresse un portrait rageur d'une Italie en plein essor capitaliste. Et on comprend finalement pourquoi Cesarino, le héros, n'avait pas revu ses amis depuis longtemps. Ça n'en valait pas la peine. Valorisé par un noir et blanc sublime, nous invitant à partager la virée nocturne de quelques tristes cires, Les femmes des autres est une œuvre infiniment plus subtile que son début ne le laissait comme ça présager. Donc le film sort à partir du 6 juillet au cinéma Utopia. No one knew better than McCain that they get him all the same and they made him pay the price. Et tout de suite, je laisse la parole à Victor pour l'interview d'un projectionniste.
Oui, tout à fait, ça nous donne l'occasion de vous proposer un petit peu une sorte de balade dans le Montpellier des années 80, enfin plus précisément sur le cours Gambetta. Où à l'époque, donc dans les années 80, se trouvait un cinéma spécialiste du film pour adultes, hein, le qui était d'ailleurs appelé film polisson, puisqu'il ne payait pas les droits pour passer du porno, et qui était le Rex. Donc difficile d'imaginer aujourd'hui une salle dédiée au cinéma pornographique, puisque déjà dans les années 80, ce genre de salle se raréfiait. Mais là, on repart donc sur ces dernières années de décrépitude du lieu. Pour en saisir l'ambiance, nous sommes donc allés à la rencontre de William, qui a débuté en fait en tant que projectionniste là-bas et qui a accompagné la salle pendant ces dernières années jusqu'à sa conversion en une salle plus respectable estampillée art et essai.
J'ai commencé à travailler au Cinéma Rex parce qu'à l'époque, bon, j'avais pas de boulot et j'avais travaillé dans une librairie et tout ça, mais j'avais dit qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville, qu'est-ce qu'il y a qui est attirant, excitant, et les cinémas bien sûr, j'étais cinéphile, donc je me suis dit tu pourrais faire projectionniste. Un avantage, c'est que tu es tout seul, tranquille, dans ta cabine, et puis tu peux lire des bouquins, faire autre chose en même temps. Bon, et puis bon, voilà, j'avais envie de travailler. Je me suis dit, il faut trouver un métier, je vais travailler là-dedans. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait rien. En 1984, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait absolument aucun stage de formation, absolument rien du tout. Et donc j'ai fait la tournée de tous les cinémas qui m'ont dit qu'ils ne prenaient pas de stagiaires. Et je suis allé donc à l'actuel, c'est Utopia, vers la fac, là, qui était à l'époque le club, un cinéma à essai aussi. Et le patron m'a dit qu'il ne prenait pas de stagiaire, mais qu'il connaissait un monsieur qui prenait des stagiaires. Il m'a donné l'adresse du cinéma Rex, que je ne connaissais pas. Alors que ça faisait 2 ans que j'étais à Montpellier, mais un cinéma porno au début du cours Gambetta, je n'avais pas remarqué. Et donc du coup, j'ai atterri là-bas comme ça. Et c'est là que je suis tombé déjà sur une vieille caissière dans sa caisse en marbre là, une vieille, pour moi j'étais jeune, donc c'est des personnes qui avaient pas loin de la retraite quoi, qui étaient ouvreuses, et je suis monté dans ce cinéma où ça hurlait de plaisir, où je me souviens du mur sur le côté de l'escalier qui s'éboulait parce qu'il y avait des infiltrations, c'était glauque hein, quand même, et je suis tombé sur Monsieur Robert qui lui avait été sur les chantiers de pétrole en Algérie, qui a perdu une jambe et donc qui avait fait une formation pour retrouver un boulot qu'il pouvait exercer. Et donc du coup, projectionniste, ça va, il faut bouger un peu, mais il pouvait le faire. Donc lui, il avait trouvé ce travail. En fait, il était gérant du cinéma. C'est lui qui s'est retrouvé gérant, parce que le patron, on ne le voyait jamais. Et voilà, je suis tombé sur lui qui m'a dit, j'ai personne pour faire le ménage en ce moment. Donc si vous me faites le ménage, je vous prends, je vous forme. Il m'a formé et puis voilà, je suis devenu projectionniste comme ça. Voilà. Mais c'était du vieux matériel, on tournait en double poste, comme à Cannes à l'époque où quand les réalisateurs arrivaient, ils passaient bobine par bobine. Ils ne coupaient pas les amorces et avec les repères pour faire le changement. Donc on tournait comme ça pour pouvoir tourner en permanence. C'est-à-dire que ça tournait de 2h à 6h, à 7h et de 9h à minuit. Donc on ne rallumait jamais la salle, parce que les spectateurs ne voulaient pas qu'on rallume la salle, bien sûr. Et donc du coup, voilà. J'ai travaillé avec lui pendant 9 ans. Ouais, le truc, c'est qu'il fallait quand même rembobiner à la main toutes les demi-heures. Et donc ça prenait quand même du temps. Donc c'était un peu chaud parce qu'il fallait rembobiner. Donc je rembobinais à toute vitesse. Et surtout quand on passait sur l'appareil qui était mieux réglé, là je pouvais lire. Je me souviens, mon souvenir, c'était que je lisais l'écran démoniaque de Lotte Eisner sur le cinéma expressionniste allemand. Au milieu des cris de jouissance du cinéma, parce qu'en fait, on avait pour faire une circulation d'air, il avait enlevé 2 hublots sur 4. Et donc, on entendait quand même ce qui se passait dans la salle. On avait des fois, comme il fumait et tout, on avait des relents un peu d'odeur, pas trop. Mais tout le monde veut des anecdotes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous raconte, les gens comme si c'était le lieu de la sexualité. C'est pour ça que je vais écrire un livre là-dessus, parce que tout le monde pense que c'est le lieu de révélation de la sexualité, alors qu'en fait, non. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que vous masturbez ou que vous faire l'amour avec un homme ou une femme, voilà, je veux dire, il n'y a pas de croustillant, il n'y a rien de croustillant, enfin, moi je trouve ça plutôt glauque, mais bon, non, j'ai pas d'anecdote croustillante, à part les morts qu'on a eues, on a eu 2 morts, qui sont morts dans le cinéma, alors, mais c'est pas croustillant ça, ils sont morts dans le cinéma d'une crise cardiaque, et Monsieur Robert avait prévenu la famille en disant qu'on l'avait trouvé à côté du sur le cours Gambetta pour pas faire d'histoire quoi. Voilà. Donc là voilà. Et on n'avait pas arrêté de tourner ce jour-là. Une fois je suis venu, je prenais mes leçons pour 2 projections et il m'a dit il y a un mort là, ils sont venus le chercher, on n'a même pas arrêté de tourner. Les gens continuaient à regarder le film avec un mort à côté. C'est une personne très âgée, hein. Il a une belle mort après tout, comme on dit. Il a fait une crise cardiaque en regardant un film porno. Voilà. Oui, le quotidien était plutôt, surtout quand on a mis l'appareil avec Zénon qui nous permettait d'être pendant 1h45 tranquille. Mmh. Alors là, oui, moi ça me servait de repos parce que je travaillais dans d'autres cinémas à côté. Donc là, je revenais le week-end, je lisais Libération, on se mangeait des sandwichs avec des bons sodas et puis on attendait les spectateurs parce que c'était permanent en fait, il n'y avait pas d'entrée, les gens arrivaient en permanence.
Est-ce qu'il y avait des habitués qui pouvaient être cinéphiles, qui pouvaient venir voir quelque chose de particulier?
Alors, il y avait des cinéphiles, mais des cinéphiles d'art et essai, que j'ai retrouvés au Diagonale, qui allaient au Rex. Ouais, oui, oui. Mais ils n'étaient pas cinéphiles porno. Je ne pense pas que c'était les films porno qui les intéressaient du point de vue cinéphilique, ou du point de vue de l'archive, de l'histoire. Ils allaient au cinéma porno parce que c'était un lieu de rencontre pour les hommes. Voilà, c'était les années 80, hein. C'était encore une survivance de l'ancien monde où il y avait, c'était une pissotière en fait. Donc maintenant c'est fini ça. Mais les homosexuels, pour rencontrer d'autres garçons ou d'autres femmes, comme dans le cas des femmes, ils allaient là. Et ça ne les empêchait pas d'avoir une vie intellectuelle, spirituelle ou ce que vous voulez, ou d'aller voir des films à réessayer à côté. Sauf que je pense qu'ils ne considéraient pas que c'était des films à réessayer. Si Godard disait que c'était bressonien, les films porno, parce qu'entre les moments, entre les scènes, il y a des dialogues où les acteurs ne sont pas des acteurs, sont des mauvais acteurs souvent. Donc ils trouvaient que c'était bressonien. Ils avaient, ils jouaient mal, mais en fait Bresson revendiquait ça parce qu'il disait que dans la vie, on ne jouait pas bien. On n'était pas toujours des bons acteurs, donc ils préféraient prendre des modèles que des acteurs. Bon, c'était la théorie de Bresson. Okay. C'est vrai que l'idée, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où ces cinémas ferment, il y a des nostalgiques qui disent que c'était bien, on avait un endroit où se retrouver, où il y avait de la place, des bons fauteuils et tout ça. D'ailleurs, les spectateurs du Rex, quand le Diagonale a repris cette salle, Diagonale Centre, ils venaient. Continue à venir. Et les arrêts-essais, les spectateurs de leur arrêt-essai étaient choqués de voir des hommes en train de se tripatouiller dans leur salle, quoi. Mais pour eux, c'était leur salle. On leur avait piqué le cinéma porno, donc ils venaient. Ils venaient là pour se rencontrer.
Ils continuent leur activité.
Donc on avait des plaintes des spectateurs arrêt-essai qui disaient oui, il y a des gens qui font l'amour ou je sais pas quoi dans la salle, mais c'est parce qu'au début c'était leur salle, on leur avait piqué leur salle, donc ils continuent à venir se rencontrer ici, c'était l'habitude.
Et voilà, donc les promeneurs attentifs peuvent encore aujourd'hui observer les vestiges de cette époque, de ce cinéma à Rex, et j'encourage donc nos auditeurs à aller sur le cours Gambetta, à regarder entre autres l'enseigne du cinéma Rex qui est très belle et qui a orné pendant plus de 30 ans, enfin il y a plus de 30 ans, l'issue de ce cours de ce cinéma. Pour les plus fétichistes, vous pouvez carrément monter, retrouver le projecteur de la salle qui a été conservé par le gérant de la salle de sport qui a ouvert à la place du cinéma, New Planet Form. Je remercie d'ailleurs ce monsieur pour la délicatesse du geste. Et donc la prochaine fois que vous allez boire un verre au bar Le Dôme ou au Babar et autres petits comptoirs du cours Gambetta, prenez le temps d'aller dire bonjour au spectre du Rex.
Merci Victor. Et puis là, on va aller vers un univers plus sain, du côté des végétaux avec Romain.
bonjour. Plus sain, je sais pas si ça va être plus sain. Ce matin, j'étais d'humeur badine.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Strange Fruit, dont vous venez d'entendre un extrait, a été écrit sous la forme d'un poème en 1937 par un enseignant d'origine russe qui s'appelait Abel Miropol. Mais il est plus connu sous le nom de Lewis Allen en tant que journaliste d'abord et puis ensuite auteur de chansons. Cette chanson d'ailleurs c'est la plus connue. La voix qui porte ce magnifique texte, c'est celle de Billie Holiday, qui a enregistré la chanson 2 ans après son écriture, donc en 1939, année funeste. Je ne ferai pas d'analyse musicale, il y a des gens qui font ça mieux que moi. Je me contenterai de constater que la forme ici sert merveilleusement l'intelligence du propos. Le tempo est lent, le piano s'arrête souvent sur le dernier mot des vers et les ponctue, en fait ressortir le sens et nous suspend aux lèvres de Lady Day, nous pauvres mortels qui buvons ces paroles qui, elles, sont immortelles. Pour ceux qui ne connaissent pas Billie Holiday, c'est la quintessence de la chanteuse de jazz. De celles qui vous font regretter d'être née trop tard pour avoir pu l'entendre en vrai. Ceci dit, vu ce que cette chanson raconte, je préfère être née trop tard. Car nous touchons ici du doigt les racines du mal. Nous sommes imprégnés de leur sève après chaque écoute. Cette chanson raconte en effet l'histoire de fruits étranges qui pendent des arbres dans le sud des États-Unis. Et ces arbres sont maculés de sang. Du sang sur les feuilles, blood on the leaves, et les racines, blood at the roots. La métaphore est évidente. Ces fruits sont des êtres humains pendus. Pour quiconque douterait de la pertinence de cette micro-analyse, le troisième vers lui remettrait les idées en place. On y décrit des corps noirs qui se balancent dans les vents du sud. Black bodies swinging in the southern breeze. Le sud nous est présenté comme un lieu de douceur et de civilisation, à travers l'adjectif gallant, où les magnolias dégagent leur odeur douce et fraîche, mais aussi comme un enfer, où les cadavres torturés pendent des arbres, les yeux exorbités et la bouche tordue en un rictus effroyable. Comme un enfer, enfin, où l'odeur des magnolias est absorbée par celle soudaine de la chair calcinée. Dans Strange Fruits, les métaphores sont légion, et elles jouent d'opposition tout en faisant appel à nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, pour toucher à l'intime et nous révéler l'horreur brute de ces actes barbares et racistes qu'étaient les lynchages. Strange Fruits est souvent considéré comme la première chanson protestataire américaine. Je ne sais pas si c'est la première, à vrai dire j'en doute. Mais c'est une œuvre à la fois poétique, simple et efficace. La forme courte, en 3 couplets, permet de toucher au but en utilisant des métaphores précitées, mais également en faisant preuve d'une indéniable ironie lorsqu'il y est question d'une, je cite, « scène pastorale du Sud vaillant »,« Pastoral Scene of the Gallant South », qui fait très certainement référence à la lâcheté des Blancs face à ces lynchages. Nous sommes au pays de Scarlett O'Hara et de Rhett Butler, avec tous les clichés que cela peut véhiculer dans notre imaginaire collectif. Gavés que nous sommes de films hollywoodiens, dont le soi-disant premier film parlant, qui fut, rappelons-le, l'histoire d'un chanteur de jazz noir joué par un Blanc. Eh oui, Al Jolson n'était pas noir. Il avait juste le visage maculé de cirage, pratique détestable que l'on nomme de nos jours « blackface ». Mais revenons à ce sud vaillant, à ce Gallant South, où l'art de vivre à la française côtoie l'horreur absolue de la ségrégation raciale. Ce sud, c'est celui du Ku Klux Klan. Vous connaissez le clan. Des crétins qui s'habillaient en pénitents, qui brûlaient des croix, qui lynchaient les noirs. J'utilise l'imparfait, mais cette engeance existe toujours, elle a juste changé de forme. Les racines du mal n'ont pas été arrachées ou peut-être pas assez profondément tirées. Peut-être les a-t-on laissées repousser sans vraiment y prendre garde. Ne vous réjouissez pas de la défaite du monstre, car à travers le monde qui l'installa puis le stoppa, la putain qui l'engendra est de nouveau en chaleur. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bertolt Brecht. En 1941, dans La résistible ascension d'Arthur Howe, formidable pièce de théâtre, 1941, c'est 2 ans après que Billie Holiday eut chanté Strange Fruits pour la première fois, et c'est 1 an après que Hinkle, le dictateur furieux de Chaplin, ait parlé de camps dont les dirigeants du monde libre feignaient d'ignorer l'existence. J'invite donc tous les nostalgiques des ordres brun, noir ou autre couleur cacadois à se pencher sur cette chanson, à l'écouter un million de fois et à y réfléchir à deux fois avant de lever bêtement le bras ou même de laisser quelqu'un lever le bras parce qu'un petit excité ou une grande énervée ou un gros milliardaire le leur aura demandé. J'invite les mêmes à voir la superbe adaptation qu'Al Ashby a fait de l'autobiographie du chanteur folk Woody Guthrie, Bound for Glory. En français, c'est En route pour la gloire. Sorti en Blu-ray il y a 4 ans, ça fait long 4 ans, chez ESC. Je les invite également à écouter Woody Guthrie chanter « This land is your land » lorsque ces mêmes gens seront tentés de croire que construire de hauts murs ou parquer des êtres humains sont des solutions viables à leur névrose.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me.
This land was made for you and me. Cette terre a été faite, fabriquée pour toi et pour moi. Voilà, le salut se trouvera sûrement dans l'art, le salut de l'intelligence, le salut de la conscience, de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Cela se fera certes dans la douleur, c'est dur de réfléchir, il faut se faire violence, mais il faut ce qu'il faut. J'engage toute personne désireuse de connaître la vraie poésie de la douleur et la politesse de l'intelligence face à la bêtise et à l'ignorance crasse qui sont l'apanage de nos populismes refoulant les égouts des années 30, à laisser tomber son intégrale de Noir Désir et à se pencher sur Strange Fruits, sur Hurricane de Bob Dylan, sur This Land Is Your Land de Woody Guthrie, sur Le Dictateur de Charlie Chaplin, sur J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian ou Vernon Sullivan. Bref, sur toute création intelligente et sensible qui appelle à résister au mal et à en étouffer les racines, pour ne jamais oublier, et garder l'esprit en éveil, car nous ne pouvons pas dire « on ne savait pas », plus maintenant. Et je vous quitte avec la version de « This Land Is Your Land », donnée par Sharon Jones and the Dap Kings, Sharon Jones est morte il y a quelques années malheureusement, reprise en 2002, parce que pour citer Bernie Bonvoisin, un autre grand énervé, hors contexte, putain c'est d'actualité, merci.
It's your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters.
Merci, Romain. Alors avant de vous quitter, je voulais vous parler de l'excellent Kaltiki qui sort chez Artus, mais nous n'avons pas le temps. Alors c'est la fin de la saison, on vous retrouvera au complet, je l'espère, à la rentrée. En attendant, toute l'équipe se joint à moi pour remercier Adeline à la technique, Utopia, Le Diagonal, Divergence. Alors je cite tout le monde, Artus, Romain, Justine, Victor, et puis les absents aussi, Yann, Raja, Olivier qui sont venus donner des coups de main de temps en temps, Anna aussi, sans qui cette émission n'existerait pas. Et puis Victor, toi tu voulais aussi
remercier. Je voulais également remercier tous ceux qui ont donné de leur temps pour les entretiens. J'ai pas tous les noms, mais dans les derniers, il y a William, Emmanuel Parot, Nora Martirossian, Philippe Fernandez, Alain Petit et tous les autres. Merci beaucoup.
Merci, et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent été.
De même. Bonnes vacances et bon film.
Au revoir.
Bisous.
Au revoir. For you.